Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
C'est un instant qui dure 20 minutes. Bienvenue dans l'instant M.
Vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Que lui resterait-il pour pimenter ses meetings et son flot quotidien de messages sur Twitter s'il n'y avait pas les journalistes ? Donald Trump n'en finit pas de s'en prendre à la presse. Les journalistes lui répondent et il alimente ainsi son propre feuilleton. Les médias doivent-ils se réinventer, réagir différemment à toutes les provocations de la Maison-Blanche et de façon plus générale, les médias ont-ils fait leur autocritique depuis l'arrivée au pouvoir du président américain en 2016 ? Un scrutin crucial approche. Les élections de mi-mandat auront lieu mardi. Karim Rissouli, aux commandes de C'est Politique sur France 5, consacre une émission spéciale à ses midterms. C'est l'occasion d'ausculter une vieille obsession, celle des médias français pour l'actu américaine. Le vendredi, c'est aussi notre jeu. Les auditeurs gagnent ce matin un vinyle. Et la chronique de Bruno Donnet, très en colère contre des pubs à la radio et à la télé. Les pubs d'une enseigne de grande distribution qui nous enjoint pourtant à positiver.
L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter.
Bonjour Karim Rissouli.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter, les États-Unis. On y vient avec vous dans un instant. D'abord quelques infos médias. Le CSA va devoir à nouveau se pencher sur le cas de « Touche pas à mon poste », l'émission de Cyril Hanouna sur C8. C'est TF1 qui saisit le gendarme de l'audiovisuel pour dénoncer, je cite, « une campagne de dénigrement et de harcèlement moral à l'encontre de Karine Ferry, animatrice sur TF1. La chaîne estime recevoir des attaques régulières de Cyril Hanouna et de son équipe. Dernier épisode en date, la diffusion de photos dénudées de Karine Ferry. L'animatrice de Danse avec les stars précise dans un tweet que cette décision de saisir le CSA ne se fait sans préjudice de toute autre action. Autrement dit, elle n'exclut pas de porter plainte. Reporters sans frontières adresse une lettre ouverte au président algérien Abdelaziz Bouteflika après l'arrestation de trois journalistes. Adlène Mella, Abdou Semar et Merwan Boudiane ont été arrêtés la semaine dernière par la gendarmerie nationale. Mis en cause pour diffamation et outrage aux institutions, ils risquent des peines allant de 2 à 5 ans de prison. RSF appelle dans cette lettre ouverte à la libération immédiate de ces trois hommes arrêtés et poursuivis pour leur activité de journaliste. Une première réaction là-dessus, Karim Rissouli, journaliste aux commandes de C'est Politique, je le rappelle. On reste en Algérie. Abdelaziz Bouteflika, on l'a appris cette semaine, est candidat à un cinquième mandat à la tête de l'Algérie. Je me suis interrogée ces jours-ci sur la façon dont les médias racontent cette histoire. Est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux de pencher toujours vers la rubrique insolite quand on parle de Bouteflika ?
Si, alors nous j'avoue qu'on n'en a pas encore parlé
ça mériterait
de
une
Bouteflika. Oui, ça mériterait une interview pour voir dans quel état de santé il est surtout. C'est pour ça qu'on parle d'insolite quand on parle de Bouteflika, parce que c'est visiblement un pantin tenu par les militaires algériens et par le FLN. Mais oui, c'est un drame pour le peuple algérien d'avoir un président invisible et ça mériterait une bonne émission, c'est vrai.
Alors, attention quand même à l'insolité et aux blagues autour de ce président fantôme, de ce président zombie, etc.
Oui, visiblement, les trois journalistes dont on parle ne rient pas avec Bouteflika. Mais est-ce que c'est Bouteflika lui-même qui a pris cette décision ? C'est ça la vraie question, c'est qui dirige aujourd'hui l'Algérie ?
Place à l'instant Madeleine, c'est notre rendez-vous nostalgique. L'auditeur ou l'auditrice qui répondra en premier à la question, avec la bonne réponse bien sûr, gagnera un magnifique vinyle que je montre à la caméra. Vinyle de Barbara, offert par Lina Barbara, premier micro. Question pointue cette semaine, attention. Comment s'appelait le correspondant de l'ORTF à New York en 1963 ?
Ici New York. Dans tous les bookshops, dans tous les drugstores, dans tous les kiosques à journaux des États-Unis, on peut voir côte à côte le portrait de M. Couve de Murville sur la couverture de Time Magazine, la photographie du général de Gaulle sur la couverture de Newsweek, 1 600 000 exemplaires et même probablement un peu plus. Or, il ne semble pas que pour l'instant, ces deux couvertures fassent baisser le tirage de ces deux magazines, bien au contraire. Car depuis un certain temps, les Américains s'intéressent à ce qui se passe en France. Et c'est là peut-être un phénomène nouveau.
Les Américains s'intéressent à la France. Et Karim Rissouli sèche, j'ai l'impression.
Je suis l'auditeur le plus nul à ce jour. Je n'ai jamais trouvé.
Pourtant, il est venu plusieurs fois. Comment s'appelait cet homme, donc correspondant de l'ORTF à New York dans les années 60 ? Vous nous écrivez sur l'instantm@radiofrance.com. L'instant M, tout attaché, que le meilleur gagne. Voici Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Dorothée.
Cette semaine, vous êtes tombé sur une publicité qui vous a mis les nerfs en plotte et ça vous a donné envie de consacrer votre chronique à un objet médiatique auquel on accorde plus suffisamment d'attention finalement.
Oui, la publicité, Dorothée, la pub est un univers qui nous intéresse peu, probablement parce qu'à force d'y être confrontés malgré nous et d'en être gavés, y compris sur cette antenne, nous avons fini par le banaliser. Et pourtant, c'est un objet bigrement singulier puisque c'est le seul espace médiatique dans lequel, à condition de payer bien sûr, une marque dispose de 30 secondes pour dire du bien d'elle-même sans jamais, absolument jamais être challengée ou contredite. C'est drôlement pratique, selon voilà, est-ce qu'au motif que l'on paye pour vanter ses propres mérites, on peut s'autoriser à dire absolument n'importe quoi? Eh bien, au vu de ce qui m'est tombé sous la rétine cette semaine, je suis en mesure de vous dire que la réponse est malheureusement oui. Alors, quelle était donc cette publicité qui m'a interloqué?
Laissez-moi deviner. C'est une pub pour un supermarché, c'est ça?
Oui, monsieur, c'est exactement ça, et c'est même très précisément
pour Carrefour.
Je vous explique comment elle commence. À l'écran, on voit toute une petite famille qui est en train de dîner et la voix off dit ça.
Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de mieux manger.
Voilà, le message est on ne peut plus limpide. Si vous achetez des produits Carrefour, vous mangerez de manière plus saine. Et pourquoi? Eh bien parce que Carrefour a pris des engagements. Lesquels?
Améliorer le bien-être animal.
Très bien. Et quoi d'autre?
Supprimer des pesticides chimiques.
Voilà, alors c'est à ce moment très précis du spot que mon sang, probablement bourré de glyphosate et d'additifs, n'a fait qu'un tour. Pourquoi? Eh bien parce que si je suis parfaitement d'accord, pour encourager les bonnes volontés et admettre qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, Carrefour s'exprime ici comme si les pesticides étaient uniquement une affaire d'agriculteurs et surtout comme si elles n'étaient absolument pas concernées par le problème. Or, vous savez, Dorothée, que si les agriculteurs emploient des pesticides, c'est pas seulement pour le plaisir de se choper un cancer ou de refiler des malformations à leurs rejetons, c'est avant tout pour augmenter leur rendement. Et s'ils ont besoin d'augmenter leurs revenus, c'est parce que les prix que leur verse la grande distribution, dont Carrefour est bien évidemment une des figures de proue, sont des prix tout pourri. Donc, se payer le culot de balayer d'un simple revers de pub un problème de santé publique auquel on a soi-même contribué pendant des lustres me semble relever d'un cynisme abyssal. Alors vous allez me dire, comment savez-vous que Carrefour nous a fait boulotter des pesticides? Eh bien, écoutez donc le document sonore sur lequel j'ai mis la main. Ça se passe en 2009, lors d'un conseil d'administration de la marque. Un homme prend la parole, il se présente en ces termes.
Je suis actionnaire individuel depuis fort longtemps, titulaire d'une carte passe, et je vais tous les vendredis à midi au magasin Carrefour de Saint-Brice dans le Val d'Oise.
Voilà, puis il explique ce qui lui est arrivé.
J'ai acheté dans ce magasin des fraises à 1 euro, la barquette de 500 grammes qui viennent d'Espagne. J'ai eu la chiasse.
Et il poursuit même son anecdote.
J'ai acheté du blond qui vient de Costa Rica à 1,40. J'ai eu la chiasse.
Avant de conclure en dénonçant les responsables de ces problèmes de transit.
C'est bourré de pesticides, c'est de la vraie merde.
Voilà.
Ça, alors, c'est l'Assemblée Générale des Actionnaires.
Exactement. Mmh. Au milieu du spot de pub pour l'hyper vertueux Carrefour, une femme pose la question suivante.
Vous en faites pas un peu trop, là?
Eh bien, en écoutant cet actionnaire, je crois qu'on peut assez facilement conclure que même la publicité réclame parfois un peu de modération. Bonne journée.
Et merci beaucoup Bruno Donnet pour ces savoureuses archives. La chronique est à réécouter sur franceinter.fr. Le résultat de notre jeu, l'Instant Madeleine, une auditrice a été bien meilleure que vous, Karim, oui. Rissouli, car elle a envoyé le courriel le plus rapide pour dire qu'il s'agissait de Jacques Salbert. Jacques Salbert, correspondant de l'ORTF à New York dans les années 60. Bravo à Geneviève, donc, qui nous a écrit en premier et qui gagne ce DVD de Barbara offert par Lina.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Mais pourquoi diable ai-je dit DVD?
C'est un vinyle. C'est un très grand DVD.
Il est très grand ce DVD, il a 33 tours. Voilà. Modernité. Karim Rissouli, donc, oui, est notre invité pour parler de cette émission spéciale Midterms américaine qui est prévue dimanche. En deuxième partie, vous recevez également Raphaël Glucksmann, ouais, qui lance un mouvement citoyen, une structure collective. Attention à ne jamais prononcer le mot
parti
politique. Je croyais que c'était une émission qui parlait de politique sans inviter les politiques.
Mais c'est pas encore un homme politique,
après,
Raphaël
vous
Glucksmann.
Plus
bah, si demain, il nous annonce, enfin dimanche, il nous annonce qu'il est candidat tête de liste aux européennes.
Il sera blacklisté. blacklisté.
Il sera pas blacklisté, mais il aura moins de chances d'être invité chez nous. Non, c'est vrai, c'est une émission qui tient cette ligne-là depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant.
Il y a eu Ruffin pourtant, François Ruffin.
Il y a eu Ruffin. On invite en deuxième partie, parfois des hommes ou des femmes politiques, sur des sujets précis. On a fait une spéciale un an après le mouvement MeToo, balance ton porc. On a reçu pendant une heure Marlène Schiappa. Mais sur ce thème-là, pas pour qu'elle nous parle de la politique du gouvernement ou qu'elle soit porte-parole de tel ou tel texte officiel. Donc voilà, on essaie de tenir cette ligne-là. Ça nous a plutôt pas mal réussi pour l'instant et c'est une émission qui est du coup d'autant plus agréable à présenter.
Ce qui est intéressant dans le profil de Raphaël Glucksmann, c'est que c'est une personnalité qui s'est forgée une place dans le champ politique grâce à des passages remarqués à la télé et à la radio.
Contrairement à nos parents qui sont nés dans une période tumultueuse où la vie était, l'univers était saturé de dogmes, de mythes. Si on était de droite, on croyait au mythe de la nation. Si on était de gauche, on croyait au mythe de la révolution, au marxisme-léninisme. On avait une religion. Mais nous, on est dans le vide d'idéologie. La ferveur aujourd'hui, elle est du côté des populistes. Mmh. La ferveur, elle est du côté des nationalistes. Parce que eux considèrent la politique comme une aventure collective, comme quelque chose de profondément romantique en fait. Et face à ça, on a quoi à opposer ? Des tweets qui se moquent de la chevelure de Donald Trump, des polémiques sur les prénoms de Zemmour ? C'est ça qu'on a à opposer ?
Au micro de Nicolas Demorand sur Inter.
Ce qui est intéressant avec Raphaël Glucksmann ou avec d'autres, c'est qu'on a l'exemple d'un intellectuel, d'un citoyen qui s'engage en politique. C'est très différent d'inviter ce genre de personnalité ou d'inviter quelqu'un qui est ministre depuis 20 ans ou qui a été député, ministre, maire, conseiller général, qui est un professionnel de la politique. Et ce qui est intéressant, et quand on reçoit François Ruffin, c'est un peu la même chose, c'est de recevoir des personnalités qui sont certes de plus en plus politiques, mais qui ont un regard et une histoire différente.
Vous pensez qu'on ne le présentera plus désormais, comme on le fait toujours sur les plateaux télé, comme un essayiste ou un intellectuel ?
Pour l'instant, si. Son objectif, mais il nous le dira dimanche soir, c'est d'essayer de faire en sorte que les 27 ou 30% de voix de gauche aux européennes ne soient pas morcelées en 7 ou 8 partis, mais en un seul mouvement, qui serait donc visiblement place publique. Est-ce qu'il va réussir ce pari ? C'est pas sûr du tout. Si demain Ségolène Royal se lance, si les Verts ne se retirent pas, l'aventure de Raphaël Glucksmann sera politiquement relativement courte.
Ce qui est étonnant sur la manière de présenter les gens, c'est qu'il y a beaucoup de personnages politiques qu'on pourrait présenter aussi comme des intellectuels ou des essayistes, mais on le fait pas parce qu'ils ont aussi une carrière dans les appareils politiques.
Comme qui par exemple ?
Beaucoup d'hommes politiques qui écrivent des essais. Cédric Villani, qui était un grand mathématicien avant de devenir député.
C'est vrai, mais justement, Cédric Villani, il illustre quand même l'évolution aussi d'une partie du personnel politique. Cédric Villani, je l'accueillerai avec plaisir dans cette émission.
Ah, lui aussi donc.
Oui, il rentre
dans la
case.
Elle est compliquée hein, quand même, cette case à définir.
Non, là je vous parle de la deuxième heure, la première heure qui s'appelle C'est politique, de 18h30 à 20h. Nous ne recevons pas d'hommes politiques. On a eu fait une ou deux exceptions pour des hommes politiques étrangers, parce que quand ils viennent chez nous, ils n'ont pas à convaincre les téléspectateurs français de voter pour eux.
L'étranger, justement. Vous consacrez toute la première partie de l'émission dimanche aux midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est un test électoral très important pour Donald Trump. Est-ce que vous feriez une émission spéciale sur une échéance politique intermédiaire pour un autre pays que les États-Unis ?
Sûrement pas. Mais il n'y a qu'une seule première puissance mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique. Et qu'on le veuille ou non, Donald Trump est aujourd'hui le leader de la première puissance mondiale. Donc ce qui va se passer dans les urnes mardi 6 novembre est décisif à la fois pour les États-Unis, mais aussi pour nous. Et puis on parle beaucoup des populistes en ce moment, un peu partout dans le monde. On a parlé de Bolsonaro la semaine dernière. Leur modèle ultime, c'est Donald Trump. Donc heureusement ou malheureusement, si on veut regarder l'évolution du monde, regarder les États-Unis aujourd'hui n'est pas inutile.
D'ailleurs, Thomas Negaroff, qui est chroniqueur dans votre émission, est un historien spécialiste des
États-Unis. Oui, on en parle toutes les semaines avec Thomas Negaroff, avec Luc Herrmann, quand on parle de questions d'éthique et de morale. Souvent, on revient aux États-Unis. C'est François Bunel qui est notre invité dimanche, qui est le patron d'America, la revue trimestrielle.
Et l'animateur de la Grande Librairie sur France 5.
Dit comme d'autres que quand Donald Trump tousse, c'est le monde entier qui s'enrhume. Et il n'a pas tort.
Est-ce qu'elle a changé sous Donald Trump, cette obsession médiatique française pour l'Amérique ?
Elle était déjà très forte sous Barack Obama. Je pense que depuis l'élection de Barack Obama, on a passé un stade, effectivement. C'est vrai que c'est une obsession médiatique. Alors, on ne ferait pas de spécial pour un autre pays. On a parlé pendant une demi-heure de Bolsonaro la semaine dernière.
Ce qui a changé peut-être sous Trump, c'est l'interrogation au sein des rédactions. Est-ce qu'il faut continuer à répondre aux provocations de la Maison-Blanche ?
C'est très compliqué. C'est un peu un jeu de dupes ou un dîner de cons. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais chacun a besoin de l'autre. Donald Trump a besoin d'un ennemi pour se poser en sauveur de la démocratie américaine. L'ennemi, il l'a trouvé. C'est très simple. C'est le monde médiatique. Alors, il y aura aussi les migrants, les femmes, peut-être. S'il n'y avait pas les médias pour se créer des ennemis. Mais en tout cas, lui a besoin de se créer cet ennemi-là. Et les médias de l'autre côté sont lus par des gens qui souvent détestent Donald Trump. Donc, faire une couverture sur Donald Trump, c'est l'assurance de vendre du papier ou de faire une émission qui aura une belle audience. Donc, c'est un vrai sujet au sein des rédactions, d'ailleurs, au sein des rédactions américaines, mais pas seulement, de savoir comment on traite Donald Trump. Ne pas répondre, c'est compliqué, et devenir son ennemi, c'est lui servir aussi un peu la soupe.
Les anti-Trump ont eu une idée assez savoureuse pour mobiliser les jeunes dans cette élection. Une vidéo dans laquelle on voit seulement des cheveux blancs.
Dear young people,
don't vote.
Don't vote.
Everything's fine the way it is.
Trump, that was us.
Voilà, des personnes âgées qui disent surtout n'allez pas voter, les jeunes, ne votez pas, Trump, c'est nous. Est-ce que c'est efficace ce genre d'opération, à votre avis, Karim Rissouli ?
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas.
Autre campagne originale mais très contestée d'appel au vote, la version américaine du magazine Elle qui a annoncé dans un tweet la semaine dernière le divorce, la séparation entre Kim Kardashian et Kanye West. La fin d'un couple emblématique, hein, c'est des superstars. On clique sur ce lien et en fait, on arrive sur une page promotionnelle, là aussi pour s'inscrire, pour voter aux élections de mi-mandat. Ça suggère quand même que la politique n'intéresse pas assez et qu'il faut tromper les gens pour qu'ils aillent voter.
Là, il les trompe doublement puisque...
Le magazine Elle s'est excusé pour cette opération, précisons-le.
Kanye West étant lui-même un fan de Donald Trump, c'est encore plus savoureux. Mais en tout cas, moi je pense que tout
un
ce qui
un dispositif
peut...
pareil en France.
Non, ça me paraît pas évident, mais en tout cas, c'est, je pense que tout ce qui peut amener la jeunesse, et notamment la jeunesse américaine, à voter, est plutôt positif.
Comment allez-vous procéder pour que les téléspectateurs français se passionnent pour les élections européennes au printemps prochain, Karim Rissouli ?
Déjà, on essaie d'en parler toutes les semaines dans ces politiques des enjeux européens, de tourner dès qu'on peut le faire à Strasbourg ou à Bruxelles, de parler du poids des lobbies au niveau européen. Donc, on a une responsabilité citoyenne, nous aussi, faire en sorte que ces élections ne soient pas marquées par 60-70% d'abstention. Je pense que intéresser les téléspectateurs à l'Europe, c'est en parler toutes les semaines. C'est pas en parler uniquement un mois avant les élections.
Et peu importe qu'il n'y ait pas de dispositif spécial.
On aura une émission spéciale élections européennes. On va faire un documentaire normalement sur les européennes qui devrait être diffusé au mois de mai. Donc on s'y intéresse énormément.
C'est
pas facile parce que les médias français ne parlent jamais d'Europe ou alors uniquement pour dire que ça va mal. L'Europe, c'est pas uniquement une entité abstraite. L'Europe, c'est vous, c'est nous, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est tous les pays qui composent l'Union européenne. Malheureusement, avec la montée des populismes xénophobes partout en Europe, on se réintéresse à l'Europe aujourd'hui. Peut-être pas pour la bonne raison, mais en tout cas, c'est peut-être un mal pour un bien.
Merci beaucoup, Karim Rissouli. C'est politique. Merci. Dimanche à 18h35 sur France 5. Lundi, Sonia De Villers reprend les commandes de son Instant M. Et moi, je remercie les patentes équipes de cette émission. François Audouin, Redouane Tella, Anne-Cécile Perrin. Merci aussi à Fabrice Desmaz à la technique.